Bonsoir, bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Associativement Vôtre, c'est difficile aujourd'hui, sur Radio EMS, l'émission qui donne la parole aux associations de l'Est parisien tous les jeudis de 19h à 20h. Dans cette émission, nous recevons des acteurs du monde associatif de l'Est parisien pour nous parler de leurs histoires, de leur activité et du bénévolat. Et vous pouvez également nous suivre en vidéo depuis notre page Facebook. Aujourd'hui, nous recevons Ludovic Blanchard de l'association 193 Soleil. Bonsoir Ludovic.
Bonsoir à tous et à toutes.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et pour commencer, quelle est votre responsabilité au sein de votre association et en quoi consiste cette responsabilité?
Alors, je suis employé. Mmh. On parlera des bénévoles plus tard.
Ouais.
Et je suis coordinateur d'un certain nombre d'actions, notamment les actions dans les crèches. Mmh. Et je m'occupe de pas mal de choses sur le festival également, qui a lieu au printemps bientôt. Et tout un tas de projets qui vont être dans d'autres lieux de la petite enfance, des PMI, des centres sociaux, et j'en passe. Voilà.
Eh bien, très bien. Dans cette émission, nous parlerons des activités donc de 193 Soleil. Voilà, un petit flyer. Lors de deux échanges agrémentés d'une pause musicale choisie par notre invité, donc Ludovic, mais aussi d'une interview de l'association Ludoléo, hein, qui aurait dû être présente avec nous et qui a eu un empêchement. Donc, au lieu de la partie deuxième partie musicale, comme on a l'habitude dans notre émission, on passera une interview qui avait été réalisée par Martin et Léonore il y a quelques temps sur la fête de la ville de Montreuil. Pourquoi animer cette émission? Je suis accompagné de Caroline qui est de retour parmi nous.
Bonsoir, bonsoir.
Et de David à la régie. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et donc pour commencer, Caroline va nous parler du thème de la soirée, donc la culture et l'enfance, la petite enfance même. À toi Caroline.
Eh bien tout à fait, alors bonsoir, bonsoir. Le thème de l'émission de ce soir, culture et petite enfance, s'impose quand même une attention grammaticale. Parce que on va bien parler de culture et de petite enfance et non pas de la culture de la petite enfance, hein, faut pas que je me plante. On va donc pas parler par exemple du clonage des embryons probables dans un futur proche comme dans Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Ça serait même tout l'inverse si j'ai bien compris. Puisqu'il s'agit d'offrir aux tout petits tout ce que la culture peut amener comme découverte du monde et d'autrui, susciter, je cite, ouvrez les guillemets, le rapport au symbolique et à l'expérience sensible, l'éveil à la créativité, la culture comme expression et vecteur de lien social, parce que tout cela porte des enjeux essentiels à l'avenir de notre société, fermez les guillemets. Alors, devinez d'où provient quand même cette belle phrase. Petite idée, non, non. Eh ben bingo, oui, c'est le ministère de la Culture, et peut-être même que c'est Rachida qui a écrit que la nécessité de l'éveil artistique et culturel des jeunes enfants fait aujourd'hui consensus. Bon alors Rachida, consensus, non, je déconne, je vous explique en fait. Parce qu'en fait, dans l'onglet « Éveil artistique et culturel des jeunes enfants hein, » sur le site du ministère, on peut lire plus bas dans le paragraphe « L'action récente de l'État » que l'action du ministère s'appuie d'abord sur un plan pour la petite enfance présenté le 15 novembre 2016. Bon alors oui, bah oui, c'est quoi ce consensus hein? C'est un consensus politique qui ferait que pour ses actions récentes, le ministère de Rachida s'appuie donc sur un plan de novembre 2016, date du gouvernement Valls sous Hollande avec Audrey Azoulay aux manettes de la culture. Bon bah, consensus de Rachida avec ses prédécesseurs politiques, alors socialistes. Hein. Bon, permettez-moi d'avoir un doute parce que vu la vitesse à laquelle le gouvernement actuel définit pas mal... défait pas mal des mesures qui ont été prises sous des gouvernements précédents, de gauche, etc. Et qui dénaturent un peu l'État-providence. Là, j'ai un sacré doute sur l'état du consensus. Bon, je suis même allée voir plusieurs fois sur le site du ministère si j'étais pas restée sur une page caduque. Hein. J'ai surfé pour aller voir s'il n'y avait pas d'autres nouveaux plans annoncés. Je suis bien tombée sur un fichier PDF qui s'appelle « Contact culture petite enfance conseiller DRAC de juin 2021 ». Mais sinon, pas grand-chose d'autre. Alors, soit le consensus politique est pour une fois très fort, soit l'action du ministère est, pas vraiment une grande cause nationale, ou alors peut-être en préparation d'un numéro vert. On verra. Mais ça, c'est à vous, hein, le professionnel que vous êtes, de nous expliquer. Bon, allez, un petit dernier pour remercier les sexy sushis et quand même le ministère de Rachida. Bon alors, sérieusement, plus sérieusement, c'est quoi ce consensus autour de la culture et de la petite enfance? Alors, un consensus culturel nourri par les travaux de l'historien des mentalités Philippe Ariès, plus apprécié hein, pour ses ouvrages, son ouvrage de référence « L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime » que pour ses convictions traditionnalistes monarchiques. Hein, bon. Mais son ouvrage de référence nous a quand même appris que c'est à partir du XVIe-XVIIe siècle que naît la conception, le concept de l'enfance et donc de l'éducation qui lui est appropriée. Donc, enfance, culture, éducation appropriée pour faire vite, ça finit par donner des spectacles partagés entre parents et enfants, dans le cadre, par exemple, du festival 193 Soleil que vous venez représenter. Un festival qui se tient dans les parcs, les théâtres, les crèches de Seine-Saint-Denis, avec même des espaces de découverte artistique et sensorielle. C'est plutôt pas mal comme programme. Bon, enfance et éducation appropriée, ça donne aussi 1000 ludothèques nationales, dont 240 en Île-de-France, qui se sont fixées des missions comme la socialisation du jeune enfant, l'intégration sociale et culturelle, la prévention de l'échec scolaire, le développement des nouvelles solidarités, excusez du peu quand même, et là, c'est un POC spécial pour l'association Ludoléo. Bon, peut-être que finalement, ce consensus, ça réside maintenant sur la dénonciation hein, des jouets genré, vous savez, ces dinettes pour filles ces camions de pompiers vendus pour les garçons. Alors ça, c'est vraiment pas de la blague, parce que c'est la sociologue américaine Elizabeth Sweet qui a lancé la mode des études sur les jouets genrés en étudiant plus de 7000 jouets sur du catalogue Sears, un géant de la distribution américaine, sur un siècle. Et elle a évidemment constaté que les plus anciens jouets genrés renforçaient les rôles traditionnels tels que la petite ménagère ou le jeune bricoleur, et puis au fil des évolutions, ça donne maintenant la princesse et le super-héros. Alors, si ces jouets genrés ont un peu décliné sous la pression des mouvements féministes des années 70, le marketing agressif des années 80 a fait pencher la balance dans l'autre sens, et la distinction des genres dans les jouets sont réapparus, autant dans les biens destinés aux enfants que surtout dans leur habillement. Et là, je vous rassure, la France n'est pas en reste, puisque la sociologue Mona Zegay, alors POC à Paris 8, hein, a montré que dès les années 90, les pages bleues et roses des catalogues s'étaient multipliées en France, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on trouve dans les rayonnages des grandes surfaces, hein, des robes de princesse, des cuisinières, et même des Lego Friends, qui sont pas friendly, mais qui servent surtout à recevoir des amis, à savoir tenir sa maison, et tout, et tout. Et puis, dans les rayonnages bleus, on trouve des camions, des fusils et des micros. Et là, en parlant de micro, va falloir que je conclue avant que le grand chef ici présent, et qui d'ailleurs, lui, dans ses cadeaux de Noël, recevait des câbles électriques, des écrans, des micros, vous voyez ce que ça donne, hein, avant que lui puisse me couper le clapet, parce qu'il a aussi reçu dans son éducation et sa culture le droit de couper la parole aux femmes, hein, ça s'appelle le mansplaining. Bon, exactement. Alors d'ailleurs, ça serait dommage que tu me coupes la parole maintenant, parce que j'aurais presque pas le temps de vous parler des comptines pour enfants, hein, c'est au lieu quand même de transmission culturelle. Comme par exemple... Eh ben ouais, Radio Emst, hein, on sait mettre le paquet quand il faut. Alors bon, vous avez tous reconnu, hein, c'est le fameux Au clair de la lune avec ce Pierrot à qui on demande une plume parce que la chandelle est morte. Et dans le deuxième couplet, comme le narrateur n'a plus de feu, on lui conseille d'aller chez la voisine parce que dans la cuisine, on bat le briquet. Et vous savez ce que ça veut dire battre le briquet à l'époque? Vous savez vraiment? Eh ben oui, ça veut dire faire l'amour. Donc la voisine, c'est une mère maquerelle. Eh ben bravo les comptines pour enfants, hein, d'accord? Bon, je vous passe la contrepétrie cachée dans il court, le furet. Vous savez, contrepétrie, on prend la première lettre des mots, après on inverse. Bon alors, voilà, si vous trouvez pas, tournez-vous, hein, mais faites gaffe vers le curé de Camaret, hein, lui qui est une vraie chanson paillarde. Bon, et puis il y a celle-ci que je préfère, c'est la chanson écrite par Madame de Pompadour en 1753 et interprétée maintenant pour la circonstance par Francis Blanche.
Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés, la belle queue, voilà, ira les ramasser.
Bon, alors quand on sait que ces lauriers qui étaient inscrits, qui étaient posés au-dessus des maisons indiquées que c'était des maisons closes, on comprend que cette chanson, en fait, c'est un pamphlet contre la décision de Louis XIV de les fermer. Et puis là, je vous dis, bah bravo, elle est belle, la culture pour les enfants. Bon, je vois que le temps est compté, que le grand chef, hein, qui a reçu, vous savez, dans son éducation culturelle, le mansplaining, hein, donc la possibilité de me couper la parole, pourrait vraiment me débrancher. Du coup, il me reste juste à vous demander, pour vous, si culture et petite enfance, c'est plutôt « il était un petit navire qui ne va pas tarder à couler avec les 207 millions d'amputations au budget de la culture » ou plutôt « pirouette cacahuète » parce que finalement, en France, on a des artistes, des auteurs, des dramaturges, des scientifiques et maintenant, j'ai plus de micro. Je vous remercie.
Ouais, bravo, bravo. Alors là, c'est formidable. Merci Caroline pour cette excellente chronique avec toutes ces parties musicales donc qui nous permettent de démarrer nos échanges avec notre invité. Donc tout de suite, passons à la première partie de questions avec un 9-3 soleil.
Eh ben, bonsoir Ludovic déjà, merci d'avoir bonsoir. Répondu à notre invitation. Et alors, qu'est-ce que pour vous, le secteur de la culture peut quand même apporter à la petite enfance?
Ouh là là, alors du coup, il va falloir rebondir sur ce que vous venez de dire. J'ai appris plein de choses, mais je n'ai pas retenu. Il y a quelques dates, effectivement, charnières, avec un protocole des années 80, remanié entre culture et ministère de la Famille, remanié en 2019, grâce aux travaux de Sophie Marinopoulos. Qui parle de tout plein de choses pour lier la petite enfance et la culture et qui utilise des mots simples sur la nourriture culturelle. Et du coup, nous, on n'a pas attendu ça pour aller vers des artistes qui s'intéressaient déjà à ça, mais ça a vraiment fait écho avec ce qu'on faisait. Et donc, il y a au niveau national des choses qui, il y a des prises de conscience forcément, mais le temps que ça redescende, il y a toujours un peu de temps. Et puis du coup, les artistes qui sont là et qui travaillent sans penser à ça, qui s'intéressent vraiment à ce que sont les tout jeunes enfants et les adultes qui accompagnent et qui galèrent un peu quand même en ce moment parce que les coupes sont partout mais nous on est entre les deux, du coup on essaie de leur octroyer des places. D'un autre côté aussi on va sur des temps un peu plus institutionnels pour montrer qu'il y a de la vitalité. Voilà.
D'accord. Alors moi, je vais revenir plutôt sur un peu le fonctionnement, l'histoire de votre association. Alors depuis quand elle existe et puis pourquoi elle a été créée et à qui elle s'adresse, votre association, même si on a un peu deviné quand même, mais voilà. Donc tout ça, ça fait partie un petit peu du début. Vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui, donc ça fait 17 ans que l'association existe et elle a été créée suite à un événement qui avait lieu sur Montreuil qui s'appelait le Printemps des Tout-Petits, organisé par une compagnie qui s'appelait Vivre Volt et qui avait du coup une vie de compagnie et ne pouvait plus s'occuper d'un festival. Donc le département de la Seine-Saint-Denis qui était déjà partenaire de ce festival avec déjà les trois services, petite enfance, culture et les parcs et jardins, s'est dit on va quand même essayer de regrouper des gens autour de tout ça. Donc ça s'est un peu formé à l'inverse d'une association habituelle.
D'accord.
Et ils ont cherché quelqu'un pour continuer à programmer avec les mêmes partenaires, donc certains théâtres municipaux, Rosny-sous-Bois, Montreuil et puis quelques-uns, et des parcs aussi qui continuaient, des parcs départementaux et certaines crèches aussi départementales. Et donc là, il y a une personne qui était à la programmation et puis il n'y avait pas d'équipe autour. Et puis petit à petit, ça s'est étoffé pour maintenant avoir quasiment 5 salariés, des apprentis tous les ans et une partie de bénévoles aussi pendant le festival.
Il y avait combien de personnes au départ ?
Une seule.
Une seule.
Et c'était Anne-Françoise Cabanis. qui est devenue après la directrice du festival de Charleville-Mézières, la biennale de marionnettes. Et ensuite, là, il y a eu une succession de cinq directrices. Ah oui, je reparlerai après de la place homme-femme aussi au sein de la petite France.
Ah oui, puisque, c'est intéressant ça. Ouais.
Parce qu'on parlait des hommes tout à l'heure. Et du coup, où j'en étais, oui, déjà, il y a trois axes. De programmation de spectacle, donc avec des tout petits de 0 à 4 ans, on va dire, même des bébés. Et puis là, il y a des artistes maintenant qui s'intéressent aussi aux mamans enceintes pour proposer des choses sensorielles pour les enfants in utero. Bon après il y a souvent des femmes enceintes qui viennent aussi avec les plus grands sur les spectacles donc les adultes qui accompagnent, qui peuvent être les parents, les professionnels des structures, les assistantes maternelles, tout un tas de métiers autour de la petite enfance et assez variés au niveau des formations liées à l'accompagnement et est-ce que ça représente un spectacle? Donc là, nous, du coup, on avait été mandatés dès le départ par le département pour aller vers les professionnels de la petite enfance des crèches pour sensibiliser à l'accompagnement lorsqu'il y a un spectacle, alors une sortie ou au sein de la crèche. Donc ça continue. On s'adresse maintenant à d'autres types de professionnels. Et on a aussi développé quelque chose depuis 4-5 ans autour de la nature et des artistes et de la nature. Ça, c'est un axe que Sophie Marinopoulos a beaucoup mis en avant aussi, le lien à la nature est indispensable. Et nous, on n'avait pas attendu ça, effectivement, puisqu'on était dans les parcs, mais le développement plus en petits groupes, en proximité, en extérieur, ce qui ne soit pas forcément que des spectacles, on l'a développé beaucoup avec des artistes qui, pour qui ils ont cette sensibilité, mais c'est pas forcément leur matière.
Ouais.
Et donc, voilà, on développe cet axe-là autour de la nature. Et puis, le troisième axe, c'est vers les artistes. On programme des compagnies, on programme des spectacles anciens, des spectacles nouveaux, on accompagne des futures créations. Et on a développé un réseau de coproduction qui s'appelle Courte Échelle, qui va avoir 10 ans l'an prochain, où on a rassemblé au début une petite dizaine de structures, pas mal du 93, mais aussi d'autres départements d'Île-de-France. Et maintenant, on est à 15 structures. On met chacun un petit peu d'argent et on se réunit pour choisir deux spectacles par an. Un qui va aller, qui est fait pour les théâtres et un qui est plus pour les lieux non équipés, qui peut jouer dans les crèches ou les médiathèques. Et donc, on est à une place de charnière de plusieurs axes.
À la fois, vous proposez, vous accompagnez. Et est-ce qu'il y a vous avez parlé de la thématique de la nature, mais est-ce qu'il y a d'autres thématiques que vous portez plus particulièrement que d'autres? Vous pouviez parler de la place homme-femme, par exemple.
Alors, du coup, là, le constat, c'est que dans le milieu de la petite enfance, il y a beaucoup, beaucoup de femmes. Il s'avère que peut-être dans les compagnies aussi, il y a plus de parité, mais il y a quand même aussi beaucoup de femmes. Donc, d'avoir des hommes au plateau, ça peut être un axe, mais c'est pas indispensable. Mais il y a quand même une autre chose là qu'on commence à mettre en relief, c'est la représentation des diversités culturelles. Et en Seine-Saint-Denis, il y en a énormément. Oui. Et on s'aperçoit quand même que il y a beaucoup d'artistes blancs. Donc ça, c'est un des axes. Alors, on va pas aller chercher n'importe qui, mais on va être sensible à ça. Mm-hmm. On va être sensible à cette représentativité l'objectif est quand même de faire venir vers le spectacle vivant et la culture toute personne plus ou moins éloignée. Et que peut-être un des freins, c'est justement qu'ils ne retrouvent pas cette représentativité. Nous, on a besoin de partenaires pour accompagner ces gens-là.
D'accord.
Et donc, on met en place tout au long de l'année, en amont du festival, un tas de choses au sein des structures qui vont permettre de toucher les enfants, mais aussi ceux qui accompagnent, parents et professionnels. Et ensuite, voilà, petit à petit, amener à faire des parcours et à rendre cette chose évidente.
Donc, vous avez des critères de sélection particuliers dans les... Alors, j'ai deux questions. Comment vous sélectionnez vos compagnies? Et quel est le processus de sélection, en fait, d'une programmation, par exemple?
Bon, alors, il n'y a pas un cahier des charges qui va être le même pour tout le monde. Il y a des grands axes. C'est que une chose importante, c'est qu'il faut que ça touche les adultes. Mmh. Et que ça touche au sensoriel aussi avant tout, même les adultes. Justement, c'est que même si l'adulte il va pas forcément comprendre, c'est pas un problème. Mmh. Et s'il retrouve son âme d'enfant, c'est l'objectif même. Et que l'enfant après il arrive à prendre tout un tas de choses qui soient pas forcément dans un une quelque chose de l'ordre de l'histoire et de l'intellect
et du coup qui puisse échanger avec ses parents.
Oui, c'est déjà une grande proximité. Après il y a plein de spectacles où il y a une interactivité physique, mmh, avec des matières, mais il y a plein de choses qui se passent même sans ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de spectacles, enfin beaucoup de partenaires qui veulent absolument que les enfants soient acteurs. Mmh. Alors qu'il se passe déjà des choses au niveau sensoriel, par les yeux et les oreilles, pas forcément par le toucher. Et du coup, l'échange enfant-parent, il peut déjà se situer, enfin enfant-adulte, peut déjà se situer dans la partie spectateur. Et encore en plus, s'il y a une mise en mouvement commune, là c'est... On révèle d'autres aspects de l'échange enfant-parent. C'est vrai que des fois, le parent peut être spectateur de son enfant et que le spectacle aura révélé des choses que le parent n'aura jamais vues. Mm-hmm. Bah, de toute façon, les enfants, ils ont très peu, ils ont encore pas beaucoup vécu, mais ça amène des surprises, des belles surprises.
D'accord.
La question c'est de savoir comment vous fonctionnez votre association. Ouais. C'est un bureau, c'est un conseil d'administration, il y a une équipe de visionnage, vous allez voir beaucoup de spectacles, enfin comment...
Ouais, comment ça s'organise tout ça?
Alors, donc il y a un conseil d'administration, mm-hmm, qui s'est au fur et à mesure structuré, puisque je vous disais tout à l'heure qu'au début c'était plutôt une commande, On est allé faire appel à des professionnels de plusieurs secteurs, mm-hmm, d'un côté petite enfance, de l'autre côté culture, pour avoir ce mélange au sein du bureau. Mm-hmm. Et puis, il y a des gens qui sont restés plus ou moins longtemps, mais cette partie n'est pas forcément liée à la programmation elle-même, mais sur l'ensemble des axes, puisqu'il y a une direction. Et ensuite, beaucoup de ces personnes sont bénévoles sur le festival, donc voient les spectacles à ce moment-là, mais ils vont pas voir tous les spectacles qu'on programme.
D'accord.
Et ensuite, il y a notre site internet qui va référencer beaucoup, beaucoup de spectacles qui passent par un comité de sélection, qui est aussi représenté par une partie culture, une partie petite enfance, et qui donc, là, c'est pour valider, il faut qu'on les ait vus.
D'accord. Et ce comité de sélection, il est composé de qui? De professionnels,
de professionnels programmateurs,
de parents, de bénévoles, d'enfants. Est-ce qu'il y a des enfants?
Non, il n'y a pas d'enfants parce qu'on s'adresse à des plus petits que ceux qui pourraient aller donner leur avis, et que les parents malheureusement sont pas trop l'axe bénévole, et oui, ils nous donnent leur avis après quand ils viennent, mais de leur demander d'aller avec nous sur les temps de spectacle, on va en semaine, on va, c'est compliqué.
D'accord.
Et donc après cela, le site va fonctionner en référençant les dates de spectacles qui vont passer, des spectacles qu'on aura choisis qui vont passer en Île-de-France, mais vont rester quand même sur la base de données. D'accord. Ce qui fait que des programmateurs peuvent après s'en servir.
Mmh. Et vous avez permis donc à des compagnies de circuler ailleurs, c'est ça?
Oui, c'est ça. Mmh. On est un pôle ressources, en fait.
Oui.
D'accord. Alors, bon, tout ça, il y a forcément un aspect financier. Est-ce que pour vous, le secteur de la culture pour la petite enfance est porteur économiquement ? Bah, en gros, est-ce que comment vous fonctionnez financièrement ? Comment ça fonctionne ? Bon, les subventions, les dons, les activités.
Il y a deux côtés là. Le économiquement, il peut être pris aussi du côté compagnie où c'est très compliqué parce que sur une jauge de 50 personnes, parce que c'est enfant plus adulte, c'est à peu près la taille de, enfin c'est souvent les spectacles pour ce type, cette jauge, pardon, excusez-moi, cette jauge 50-60, c'est pas être rentable. Donc si un théâtre programme, c'est déjà un engagement quelque part. Et puis les séries sont pas forcément très longues parce que faut pas croire qu'un spectacle pour la petite enfance va être moins cher que un spectacle pour plus grand, même si ça l'est. Et ça ça devrait pas être normal. Nous, pour cela, on a des subventions effectivement du département. C'est la Seine-Saint-Denis depuis le début qui nous subventionne au fonctionnement. Puis après, on fonctionne beaucoup au projet avec des sous de l'État via la DRAC.
D'accord.
Qui va aider sur un axe d'accompagnement des artistes ou sur un axe recherche atelier, justement. Là, nous, quand on met en place des ateliers, il y a l'aspect artiste professionnel qui est à mettre en avant pour que ça puisse éventuellement, mais ce n'est pas l'obligation, déboucher sur les spectacles.
D'accord. Et ces financements de la DRAC, c'est quoi ? C'est par des appels à projets ? C'est.
Oui, alors là récemment, on a la bonne nouvelle d'avoir une transformation en subvention de fonctionnement, mais depuis le début, c'était à l'appel à projet. Donc beaucoup de temps, effectivement, on passe dessus. Ouais, et un autre côté, c'est la CAF.
Oui.
La CAF qui aussi demande beaucoup de temps et qui nous aide sur des temps d'atelier où on va toucher les parents.
D'accord.
Et puis on a des aides au poste et oui, bien il y a un autre axe qui est la formation où depuis peu il y a la DRIET, donc qui est une entité spécifique sur la formation du personnel petite enfance.
D'accord.
Qu'on a décroché deux fois
la DRIET, donc le ministère du Travail.
Ouais. Qui nous aide et qui nous permet de pas faire payer du coup les gens pour la formation. Donc ça c'est intéressant.
C'est pas mal, oui.
Mais on espère que ça va durer. Alors que sinon c'est plutôt des demandes d'institutions, de villes ou de qui venaient vers nous pour demander une journée pédagogique ou un parcours.
D'accord. Donc multiples financements.
Ouais.
D'accord. Eh ben, on arrive déjà à la fin de la première partie. Donc, merci Ludovic pour cet échange enrichissant. Là, on a appris. Moi, j'ai appris plein de choses.
Hein. Aussi, oui.
Bon, mes filles sont grandes maintenant, mais voilà. Si j'avais appris tout ça, peut-être qu'on aurait participé à votre festival. Donc, on vous a demandé de choisir un titre musical et vous avez choisi Bla 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 de Philippe Catherine. Donc l'association 193 Soleil a choisi ce titre. Pourquoi avoir choisi ce titre, Ludovic ?
Alors je l'évoquais un peu tout à l'heure, s'adresser aux tout petits et donc aux adultes qui accompagnent, essayer de redevenir un enfant, c'est pas forcément évident. Et j'ai trouvé que ce titre de Philippe Catherine était assez déconcertant pour les adultes. Et a priori, il parle bien aux enfants, puisqu'il ne raconte pas grand-chose, tout est à inventer. Et aussi c'est peut-être un peu ce que les enfants perçoivent de nos paroles avant de pouvoir les comprendre, un brouhaha, un blablabla, et en même temps il donne plusieurs interprétations, sauf qu'à un moment donné il va parler d'une chose très sérieuse qui est la mort et qui peut surgir comme ça dans un spectacle aussi. C'est pas interdit de parler de la mort, même au tout petit, parce que ça peut être amené d'une manière poétique et pas trop dure. Et ça, les gens qui accompagnent les tout petits ont souvent peur de thématiques un peu qui sont un peu de côté et ont des comment c'est un peu des clichés souvent sur les spectacles pour la petite enfance qui sont toujours les mêmes et où les adultes s'ennuient finalement. Et il y a une autre chose aussi dans ce titre qui est une grande variété de changements de rythme. Et ça, pour nous, c'est aussi important dans les critères de sélection des spectacles, c'est que ça ne soit pas monotone.
D'accord. Donc, ça c'est parfait, alors.
Ouais, c'est parfait.
Eh bien, donc, Blablabla de Philippe Catherine.
Radio Ems, l'essentiel de la musique.
Tu parles blablabla, 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 blablabla. Tu parles blablabla, 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 blablabla. Tu parles blablabla, 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 blablabla. Tu parles, tu meurs, tu parles peu. Tu parles, tu meurs, tu parles plus. 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 Bla 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 bla.
Eh bien, bla, bla, bla. Voilà, c'était bla, bla, bla de Philippe Catherine. Donc, le titre choisi par l'équipe de 193 Soleil, dont Ludovic Blanchard, coordinateur, est là avec nous. Donc, on va passer à la deuxième partie d'échange.
Alors, Ludovic, merci. Après toute la présentation là, de votre association et du festival, est-ce que vous sentez qu'il y a des thématiques particulières qui sont recherchées, qui sont plus demandées par les familles, par les familles du 9-3 en particulier?
Et est-ce qu'il y a eu une évolution dans le temps, puisque ça fait quand même quelques années?
Oui, ce qui est demandé, en fait, c'est pas vers les artistes, ils essayent de pas forcément répondre à la demande, parce que la demande, elle va être un peu toujours le cliché, souvent.
C'est quoi, justement?
Faut que ça soit rigolo. Et puis, donc quand on dit rigolo, on dit clown. Ah non, 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 pas le clown, non, non, ça fait peur, le clown. Donc, faut pas que ça fasse peur. Et en fait, voilà, c'est pas mal de gens qui ont peut-être pas vu, qui n'ont pas vu de diversité, en fait. Et qui donc ont une représentation d'un spectacle pour enfants où c'est des marionnettes, peut-être. Et quand ils voient quelque chose d'un peu différent, eh ben, c'est pas suffisant encore. Il en faudra en voir plein pour voir la diversité. Et c'est là où c'est compliqué d'aller régulièrement accompagner les familles. Donc, on fait des actions qui sont pas forcément que du spectacle, mais qui vont amener les artistes au plus proche d'eux. Et en fait, ils se posent plus la question de savoir de quoi ça parle, de qu'est-ce que ça fait. Souvent, c'est que ça leur fait du bien. Donc, c'est ça le principal. Et c'est pas, du coup, c'est pas un critère, ça, au départ.
Oui, c'est sûr.
Mais,
oui. Donc il n'y a pas de mode dans, par exemple, vous parliez de la nature, c'est important pour se reconnecter, mais il n'y a pas des modes actuellement qui traversent la société.
Il ne faudrait pas que ce soit une mode, parce que, parce que voilà, c'est un peu trop la mode, alors que ça devrait être normal.
Ouais. Et vous sentez que les artistes, eux, ils sont traversés, les artistes qui se spécialisent peut-être... d'ailleurs, un artiste, il se spécialise, il décide de créer un spectacle pour la petite enfance, c'est un parcours, c'est quelque chose,
oui, alors,
c'est
du coup,
un essai dans sa carrière.
C'est vraiment une décision particulière, parce que ça vient pas des formations. C'est vraiment un engagement. Alors il y en a pas mal qui varient sur les publics, justement, et pour ne pas être trop catalogué et s'enfermer peut-être, mais la petite enfance permet beaucoup de choses, parce que ce public est exigeant. Et si ça marche pas, si la présence des artistes n'est pas bonne, ben il y a rien qui est renvoyé, les enfants ils s'en vont, et les adultes aussi. Et du coup,
oui là les enfants ils sont cash quoi, ça leur plaît pas, hop, au revoir.
Donc, enfin pas forcément ils s'en vont pas, mais ils font autre chose quoi.
Ils regardent pas les spectacles.
Et du coup ça les ceux qui vont s'essayer à ça, ça va les toucher. Donc soit ça leur plaît pas parce que c'est trop, soit ils rentrent à fond dedans et là ça leur permet d'expérimenter plein de choses et d'avoir plusieurs disciplines. Alors pas forcément avec une seule personne, justement, parce que on peut pas être bon en chant, en musique et en marionnette et en cirque. Et donc ça veut dire que ils vont demander des partenariats, d'essayer des choses. Et nous, c'est ce qu'on essaie de mettre en place aussi, un niveau d'expérimentation avant de passer au-dessus. Nous, on n'est pas producteurs de spectacles. Donc après, ce qui se passe après, c'est plus notre, ça ne nous regarde plus.
D'accord. Mais du coup, c'est ces artistes qui viennent à faire ça, partons de l'idée qu'ils font du spectacle pour adultes, il y a peut-être une formation ou des choses à connaître, puisque forcément c'est totalement différent.
Oui, c'est d'aller dans les structures.
Ouais.
C'est d'aller vivre avec les enfants. Alors bon, il y a pas que les crèches, mais c'est quand même un lieu assez facile d'accès, avec des professionnels parfois qui sont assez aguerris et qui laissent faire. Il y en a certains qui vont proposer des choses. Ou avec trop d'attentes, où là, ça va sur un résultat, et là, ça peut être compliqué, mais la plupart vont savoir que c'est avec le temps, que l'observation est importante, et que les enfants vont proposer des choses, de toute façon. Donc, il y a plein d'ateliers avant qu'un spectacle ait lieu.
D'accord. Un peu des ateliers qui permettent de tester les spectacles directement auprès des enfants.
C'est ça. Ça s'appelle des résidences.
Ouais. Des résidences en crèche.
Oui, et ça doit être financé aussi.
Ouais, bien sûr.
C'est ça où un spectacle, il va avoir besoin de 5 semaines, par exemple, mises bout à bout pour vraiment commencer à être par rapport à une écriture, à des essais, avant d'aller au plateau même, parce que après il y a tout ce qui est lumière et tout ça, mais déjà 5 semaines, faut qu'elles soient financées pour que les artistes ils puissent se payer de ces 5 semaines là, et c'est pas facile de le trouver.
Avant de vous questionner vraiment sur le festival 9-3, peut-être pour mieux l'expliquer, je voulais savoir si j'ai bien compris, il y avait différents lieux de résidence, enfin en tout cas de spectacle, les crèches, donc là le public est attitré, et il y a des scènes ouvertes ou ils sont programmés où, dans les parcs, dans des théâtres
Oui, alors ça c'est pour le festival, mais j'ai parlé en introduction aussi d'autres lieux dans lesquels on va mener des ateliers. Donc il y a les centres de protection maternelle et infantile, les PMI, où là c'est des lieux de soins, où il y a des parents, donc qui sont de passage. C'est pas comme dans une crèche où les enfants sont laissés, et les parents éventuellement peuvent venir des fois, mais c'est quand même pas beaucoup le cas. Là il y a les parents dans un lieu qui est pas dédié à ça, et donc il y a tout un travail à faire avec les équipes pour que ce lieu se transforme. Et c'est ces personnes là qui sont souvent le plus loin de la culture. Et ensuite les centres sociaux aussi, certains ont des actions avec les tout petits. Mais souvent ça commence à 3 ans. Certains centres vont aussi avoir des accueils avec les assistantes maternelles, donc des pièces dédiées et tout ça, du matériel, des, des connaissances de ces très jeunes, parce que pour le coup, les animateurs, les centres sociaux sont pas des spécialistes de la petite enfance.
Non.
Alors des fois, on tombe sur des éducatrices qui sont dans ces centres-là, mais c'est plutôt rare. Et donc, ça accompagne tout un tas de choses qui vont après faire en sorte que les parents vont se sentir bien dès le début, dès qu'ils ont des tout petits, pour rester dans le centre social après, sur l'axe des plus grands.
Attends, je voulais juste finir, parce que ça me pose la question du coup du public, comme il y a des lieux variés mais qui sont quand même institutionnalisés, le public il est à l'image de ces lieux, c'est-à-dire on va retrouver la diversité des parents du 93 dans les spectacles en fait, ou finalement ça reste blanc.
C'est pour ça qu'on va vers ces structures qui ont cette diversité, et on a besoin que les gens qui y travaillent nous suivent quand on a des sorties, pendant si c'est pas chez eux, et que c'est au théâtre ou dans le parc, eh bien on a besoin qu'ils soient là.
D'accord.
Parce que même s'ils donnent un flyer, on n'est pas sûr que la famille va venir.
Bien sûr.
Donc il y a toute une notion de parcours. Ensuite, quand on est dans un parc, on va avoir du public qui va nous suivre, qui est sur tous les réseaux de communication, voilà. Et puis ceux qui sont dans le parc, qui savent pas qu'il y a ça, on va aller les chercher. Et c'est gratuit. On a des jauges, mais qu'on peut un peu faire varier. Et puis il y a des attroupements aussi, mais on va quand même un peu plus loin dans le parc. Au parc des Guilands notamment, il y a vraiment deux spots très loin de là où on est, au milieu à la maison du parc. Et on va tracter. Et on leur dit, c'est pour tout le monde. Même les plus petits, justement. C'est ça l'intérêt. C'est parce que c'est aussi pour les plus grands. Quand il y a des spectacles qui sont à partir d'un certain âge, les plus petits, ils sont mis de côté. Ou alors, les parents ne savent pas comment se comporter. Et nous, on a tous cet accompagnement.
Alors, moi, je voulais... Vous avez parlé d'un centre social. Comment ça se passe? Comment on organise quelque chose dans un centre social? Comment Parce que du coup, il y a pas beaucoup de monde dans un centre social à ce moment-là. Ou alors c'est un spectacle à un moment donné.
Alors tout ce qui est atelier, on va avoir tout un processus de partenariat. Alors on va chercher l'argent auprès de l'État avec les contrats de ville. Donc c'est pas non plus dans n'importe quel quartier. Des dates sont posées et c'est la structure qui va contacter le public.
D'accord.
Donc il peut y avoir des parents, des assistants maternels, un mélange, mais c'est des petits groupes. Quand c'est un spectacle, je vous le disais, sur à peu près 50, là il faut faire, on peut faire venir des crèches. Donc c'est sur un périmètre assez restreint, parce que 50, ça va assez vite.
Oui,
quand même.
Ça va vite.
Mais il nous faut des partenaires. Et donc ça va être justement centre social, PMI, crèche, et très peu d'affichage sur la voie publique finalement. Parce que
C'est plus du bouche à oreille, c'est plus le centre social qui connaît les gens qui passent par le centre.
Maintenant, un 9-3 Soleil commence à être connu, donc c'est vrai que des fois ça marche bien. Et puis quand on est dans une nouvelle ville, il y a tout ce procédé qui, avant qu'on mette des ateliers en place, c'était peut-être plus compliqué de faire venir au théâtre.
Alors un 9-3 Soleil, alors ça existe depuis combien de temps? Je ne sais plus si vous l'avez pas dit encore.
C'est 17 ans.
17 ans. Et c'est quand la prochaine édition alors?
Alors les dates.
Le 8 au 9 juin dans le parc des Guilands.
Ça, c'est le parc des Guilands, mais il a lieu alors, du 13 mai au 16 juin.
D'accord, du 13 mai au 16 juin.
Sur 15 villes, allant de Aulnay-sous-Bois à Tremblay en France. Donc on est sur tout le département.
Ouais.
Il y a... Donc
13 villes, c'est pas mal, ça fait un tiers du département, pratiquement.
17 villes.
17, ah oui.
Ouais, un bon tiers. Après, certaines villes choisissent de programmer dans leur théâtre, ou dans leur crèche, ou dans leur médiathèque. Et donc oui, effectivement, sur la médiathèque, on a aussi des histoires de gratuité qui sont aussi, ou qui rentrent dans des programmations adressées vraiment à un type de public. On va être sur des pages spéciales petite enfance. Sur des plaquettes de saison de théâtre, pas forcément. On est un peu au milieu. Mais il y a des régularités de cette période du printemps où on sait que dans certains lieux, on va retrouver un spectacle petite enfance. Et donc, dans ces lieux partenaires. Il y en a qui sont historiques, hein, Rosny-sous-Bois, Montreuil. Mmh. Montreuil, c'est au Théâtre des Roches, notamment. Et d'autres qui sont des nouveaux partenaires. Et donc, voilà, il y a tout ce processus qui se met en place. Et on essaye d'avoir, justement, des temps avant le festival pour aller toucher les publics qui sont moins captifs. Et dans les parcs, en fonction des années, on est sur 4 ou 5 parcs départementaux. Le parc des Guilans, c'est depuis le début, donc il y a aussi une certaine habitude. Mmh. On est au parc d'Aulnay-sous-Bois, le parc du Saucet, depuis quelques années aussi. Mmh. Le parc de la Poudrerie, ça dépend. Donc ça, c'est vers Sevran.
Ouais.
Ça dépend des années. Le parc de l'île Saint-Denis aussi, ça fait un petit moment. Et le parc de la Courneuve aussi, ça fait assez longtemps. Même s'il est très grand, on est sur un lieu un peu reconnu pour ça. Voilà, dans les parcs, on fait le plein tout le temps, sauf des conditions de météo un peu différentes. Mmh. Mais on a des artistes qui n'ont pas peur de ça. Ouais. Et aussi, on fait une commande spécifique qui s'appelle les rencontres à ciel ouvert. Et ça, c'est des temps peut-être un peu plus courts, mais qui ont lieu quel que soit le temps. Sauf quand le parc est fermé.
Ça se passe comment quand ça se fait dans un parc? C'est vraiment libre, c'est-à-dire que vous vous installez à un endroit et le spectacle se passe là?
Oui, alors il faut prévoir, mais c'est un peu comme les festivals de théâtre de rue.
Mmh.
Où effectivement, il y a peut-être des choses qui se passent au même moment, mais à différents endroits du parc. Mais on a quand même une zone d'appui, accueil, souvent à proximité des maisons de parc. Donc là, au parc des Guilans, c'est plutôt sur les hauteurs.
Mmh.
Et puis, on va aller parfois se cacher un peu sous les sous-bois pour pouvoir préserver des cocons, pour pas que trop de monde vienne non plus.
Mmh.
Parce que le spectacle, il est partout pour les petits. Et quand ils sont captés, ben, voilà, si ça passe de tous les côtés, c'est quand même moins sympa. Et puis, il y a quand même des spectacles pour les un peu plus grands, peut-être à partir de 3 ans, où là on arrive à avoir des jauges assez conséquentes, on est sur la traverse.
Mmh.
Ça va être le cas du Vertige de l'Envers, un spectacle de cirque qui est pour les à partir de 3 ans, qui peut se voir d'un peu plus loin, assez visuel, voilà, il y a différents registres, et nous les gens qui vont venir, on va les orienter. Ils pourront pas tout voir. Et c'est beaucoup mieux d'ailleurs pour l'enfant parce que c'est important de suivre son rythme. Les spectacles, ils passent en général 2 fois. On est sur les après-midi dans les parcs. On a toujours un lieu détente avec en fonction des endroits, les parcs nous mettent à disposition des assises et des choses comme ça, mais on a toujours des grands tapis et tout un espace lecture. Depuis l'an dernier, on met en place des espaces, des espaces vraiment sensoriels et artistiques, qui sont avec donc les artistes qui vont un peu improviser des choses en fonction de qui va être là. Ce n'est pas des temps de spectacle, c'est des temps de pratiques artistiques, d'échanges, de discussions aussi, pourquoi pas.
Mmh. Oui.
Et là, vraiment lié à la nature.
Pardon, je vois sur la plaquette, c'est impressionnant. Hein. Il y a des spectacles dès 6 mois, dès 9 mois, dès 12 ans, dès 18 mois. Mmh. C'est impressionnant. Dans les associations qui s'occupent de la petite enfance au sens large, est-ce qu'il y a des besoins particuliers, des besoins matériels, en dons, bénévoles, dans les associations que vous pouvez côtoyer, hein, à travers votre festival, même si vous êtes avec beaucoup de compagnies de...
Oui, c'est là, on n'a pas trop d'associations finalement qui sont avec nous. Mmh. C'est les partenaires qui viennent. Mmh. Une année, on a demandé au centre social de faire un coin jeu, mais du coup, c'était leur c'était leur cœur de travail aussi. Mmh. C'était pas une asso. Mmh. Comme on est basé à Romainville. Mmh. Depuis 4 ans, donc on a un peu plus de connaissances sur les structures associatives de Romainville. Mmh. Et ensuite, dans chaque parc, ça va être un petit peu plus compliqué d'avoir du lien avec les structures locales qui vont pouvoir proposer des choses sur la petite enfance. Donc ça va être, parce qu'en plus c'est le week-end. Mmh. Et donc ils vont être plutôt des vecteurs de communication.
Mmh. Ouais, on le rappelle, c'est le samedi 8 et dimanche 9 juin 2024.
Au Parc des Guilans.
Au Parc des Guilans.
Ah, c'est très bien. Local.
Eh bien, merci Ludovic d'avoir répondu à nos questions, qui, je l'espère, ont pu mettre en avant et en lumière vos activités. Alors, comme notre deuxième invité n'a pas pu être là, on va diffuser une interview de l'association Ludoléo qui avait été réalisée par Martin et Léo lors de la fête de la ville de Montreuil.
Radio Ems, la web radio qu'on aime.
Salut, c'est Martin. Je suis avec Jamila qui va nous parler de son association. Bonjour Jamila.
Bonjour à tous.
Donc Jamila, tu fais partie de quelle association s'il te plaît?
Association Ludoléo, qui est une ludothèque à Montreuil, dans le Montreuil.
Alors, une ludothèque, est-ce que tu peux m'expliquer à nos auditeurs ce que c'est que le principe d'une ludothèque?
Alors, je vais faire très court. C'est un espace, en fait, où tous les publics, parents, enfants, écoles, enfin, tous les publics peuvent se rendre et jouer en famille, jouer avec d'autres, échanger aussi. On peut aussi se déplacer et aller dans d'autres structures, dans les espaces publics, voilà.
Alors moi, par exemple, j'ai 4 enfants. Donc, ils sont en train de courir à la maison, de mettre le bazar. Et est-ce que je peux les prendre et venir vous rencontrer à la ludothèque?
Alors, prenez-les, bien sûr, et amenez-les. Mais surtout, venez ensemble jouer à la ludothèque et échanger avec d'autres, rencontrer d'autres personnes, vous mettre en lien. Voilà, il y a plein de choses à faire ensemble.
Parce que du coup, c'est un moment qui devient privilégié entre moi et mes enfants, où je peux faire une activité où parfois j'ai l'impression de ne pas avoir le temps. Et là, c'est un espace où j'ai rien d'autre à penser. Et puis rencontrer d'autres parents, peut-être leur poser des questions sur des difficultés ou même des activités à faire dans la ville.
Voilà, tout à fait. C'est un espace protégé. C'est vrai, c'est une relation privilégiée. Vos enfants peuvent aussi bien jouer entre eux, jouer avec d'autres, jouer avec vous. On pratique ce qu'on appelle le jeu libre, c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte qu'il y ait le moins d'adultes possible sur le dos de l'enfant. Les enfants sont amenés, entre guillemets, à se gérer ensemble, gérer comment dire, leurs sentiments, gérer les règles de jeu ensemble. Si par contre ils sont en difficulté, alors on est là. On est là pour les aider, à grandir et à vivre en société.
Je crois que Léo a une question pour toi, Jamila.
Oui, moi j'aimerais savoir, Jamila, où est-ce que se trouve la ludothèque? Tu peux nous donner l'adresse de Ludoléo. Et si jamais vous cherchez des bénévoles, si tu peux nous donner un contact, si les gens sont intéressés, qu'ils puissent vous contacter le plus rapidement possible.
Alors, nous trouvons 65 bis rue Édouard Branly à Montreuil et nous serions ravis, bien évidemment, d'avoir des bénévoles puisque c'est une association, donc ce sont avant tout des habitants et des bénévoles qui la gèrent, cette ludothèque. Donc, bienvenue aux bénévoles.
Merci beaucoup, Jamila.
Merci, Jamila, et à bientôt avec mes enfants.
À bientôt, à très bientôt. Au revoir.
Eh bien voilà, merci Jamila de Ludoléo et Auria, la présidente, qui n'a pas pu venir ce soir. On lui fait un petit coucou. Donc on arrive pratiquement à la fin de notre émission. Merci Ludovic de l'association 9-3 Soleil.
Merci à vous.
Donc 1-9-3 Soleil, voilà, ça nous rappelle des petites choses d'enfance. Et donc avant de nous quitter, on parlait là en off de besoin de bénévoles. Donc est-ce que vous avez besoin de bénévoles, et s'il y a des gens qui ont envie de vous accompagner et de vous aider, comment ils font pour vous contacter, et en même temps comment on fait pour connaître un petit peu, en dehors de ce petit flyer, si on a envie d'aller sur internet, comment on fait pour avoir toutes les infos sur un 9-3 Soleil?
Alors bénévoles, oui, sur le festival dans les parcs, notamment au Guilan, on a pas mal de spectacles en même temps, on a besoin qu'à chaque fois il y ait et qu'il y en a qui se passent en simultané. On a besoin qu'il y ait au moins deux personnes qui soient, donc ça multiplie. Mais on a quand même une équipe d'habitués et on a pas mal de personnes qui sont de la petite enfance. Mmh. Alors, c'est pas au dernier moment comme ça qu'ils vont venir, c'est quand même des gens qu'on a côtoyés avant. Donc, pour nous contacter, il y aurait le site internet 193soleil.fr. Alors 193, maintenant ça s'écrit tout en lettres parce qu'avant on lisait 193, donc ça marchait pas. une adresse email contact@193soleil.fr.
Et un numéro de téléphone aussi.
Ouais, c'est un 07 qui n'est pas actif toute l'année.
D'accord.
Je peux 01 éventuellement.
Le mieux, c'est d'aller sur le site internet et il y a toutes les informations. Et il y a tout sur le festival.
Et donc les bénévoles, effectivement, on a fait notre recrutement en fait sur nos besoins. Mm-hmm. Et par exemple, on a pas de service de restauration, de choses comme ça où là il y a vraiment besoin de monde. Mm-hmm. Et où c'est des choses un peu plus classiques. Nous, on a peut-être une petite charte d'accueil, tout ça. Donc, c'est pas impossible encore de nous contacter. Des gens qui sont intéressés par la petite enfance, la nature, voilà, c'est assez vaste quand même. D'accord.
Donc, s'il y a des gens qui sont cuisiniers ou cuisinières, c'est ça? C'est ça que vous cherchez
pour l'an prochain.
Ouais.
En fait, c'est compliqué de faire une restauration dans les parcs. Nous, en tout cas, on a des gens qui nous font à manger et les insistes. Mais ça serait bien des buvettes en fait, mais c'est compliqué de mettre en place.
D'accord.
Là, on pourrait faire appel à des associations locales, mais
s'il y a des gens qui sont intéressés, qui se disent que cette association, elle a de l'intérêt et qu'ils veulent y participer, ils vous contactent, ils vont sur le site internet 193soleil.fr et puis ils vous contactent.
Donc dans les parcs, c'est gratuit, mais ramenez votre goûter.
Très bien. Eh bien, merci Ludovic. Merci de votre participation. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, un grand merci à ma co-animatrice Caroline, qui a eu beaucoup la parole aujourd'hui. Hein, on n'a pas coupé la parole à Caroline. Et voilà, elle nous avait manqué quand même, David.
Je me suis rattrapée, j'ai fait une chronique plus longue. Moi aussi.
Elle nous avait un peu manqué. Et donc là, on lui a laissé de la place avec une belle chronique, avec du bruitage, etc. C'était très bien. Donc, merci David pour la régie encore une fois. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été encore une fois nombreux et nombreux à l'écoute. On se retrouve, donc c'est rediffusé la semaine prochaine. On se retrouve au mois de mai, on n'a pas encore la date parce que c'est un petit peu compliqué avec tous ces jours fériés. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour savoir quand est-ce que on aura notre prochaine émission en direct. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission dès demain en replay sur notre plateforme de podcast. Depuis notre appli mobile. N'oubliez pas de nous laisser des messages sur nos comptes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram et X. Bonne soirée à toutes et tous. Restez à l'écoute de Radio Ems. Dans quelques instants, Déclic prend le mic avec Florence et son équipe, suivi de Funk Anthology, Jazzomania. Oui. Et à 23h, Club Ems, le mix avec David. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Someone tells you that you've got to make in the middle of our street. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.